Bon, on étudie différents thèmes dans la Bible. La semaine passée, on a vu, dans les 3 derniers dimanches, on a vu les nations, la grâce, les vêtements. Un thème que Benjamin a étudié récemment, ça, je pense. Aujourd'hui, on va voir le thème de la voix. Pas la voix, la voix. La Bible utilise la métaphore de la voix. Le chemin, le sentier, ça revient très souvent. Et ça sert entre autres à désigner l'habitude de vie d'une personne, son code de conduite, donc sur quelle voie il est. On utilise aussi la voie pour parler de la destination, là, la destinée, l'aboutissement d'une direction qu'on prend. Comme Paul qui était sur le chemin de Damas. Ben, là, c'est au sens littéral. Là. Il était sur le chemin qui mène à Damas. Mais c'est utilisé aussi un sens métaphorique, là, figuré. Ou aussi, pour parler d'un groupe, donc ceux qui sont sur une certaine voie, les membres de ce groupe-là ont une certaine vision commune, une mission commune aussi. On va regarder l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Donc, à commencer par, à l'origine, la voie de l'homme était bonne, finalement, n'importe où il allait. Adam et Ève étaient dans le jardin, puis... Donc, on ne parle pas vraiment d'une voie. Là, c'était n'importe où ils pouvaient marcher, c'était bon. Ils étaient innocents, sans péché. Ils avaient même le privilège de marcher en compagnie de Dieu. Ça, on a cet indice-là après qu'ils aient péché, malheureusement, mais c'est écrit que « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. » Dieu qui parcourait le jardin, on ne sait pas de quelle manière, mais avec la brise du soir. Et l'homme et la femme allèrent se cacher de devant l'Éternel Dieu. Donc, ils étaient vraiment conscients que Dieu était localisé à un endroit, là, qu'il circulait, qu'il marchait. Et parce qu'ils avaient péché, ils ont eu honte, ils ont eu peur, ils sont allés se cacher de devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Là, Dieu, finalement, il savait où ils étaient, là. Il les a appelés. Il a fait en sorte de dévoiler leur péché. Et le premier qui a été... condamné, c'est le diable. Donc, après que le diable a fait tomber l'homme dans le péché, Dieu l'a condamné à une marche, maintenant, une conduite, là, qui est dans la honte. Et on va lire ça, Genèse 3, 14. C'est ça. Là, il s'adresse au serpent, mais on comprend que le serpent, en fait, c'est le diable, c'est Satan. Donc, Dieu, d'une manière figurée, il dit au serpent, « Tu vas marcher maintenant sur ton ventre, là. Tu vas ramper, tu vas mordre la poussière. » Donc, c'est maintenant la voix de Satan va être toujours honteuse. Toutes ses actions sont honteuses, mènent à la confusion, sont condamnables, sont en horreur pour ceux qui ne marchent pas sur cette voie-là. Donc, Satan est condamné finalement à jamais pouvoir paraître réellement sous un beau jour. Là. Sa voix est toujours honteuse. L'homme aussi a été condamné. Il y a une punition qui allait avec sa faute. Et il ne peut plus marcher dans le sanctuaire de Dieu, donc en présence de Dieu. Donc, il a été, pour cela, chassé du jardin d'Éden. Mais il ne peut plus non plus emprunter par lui-même le chemin de la vie, le chemin de la vie éternelle. Quelqu'un d'autre peut nous lire les versets 22 à 24. Oui, parce que l'arbre de vie, si Adam et Ève avaient pu continuer à en manger, ils auraient pu vivre éternellement. Donc, ils ont perdu ça. L'immortalité à cause de leur péché. Mais donc, Dieu a placé, il les a chassés du jardin d'Éden, puis il a placé des anges, des chérubins, avec des épées, pour bloquer quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Pour garder, oui, le chemin de l'arbre de vie. Donc, les hommes, à partir de ce jour-là, ne peuvent plus, peu importe les moyens qu'ils vont s'y prendre, là, trouver le chemin pour avoir la vie par eux-mêmes, obtenir la vie. C'est devenu impossible. Ce qui est encore possible, par contre, après la chute, c'est encore possible de marcher avec Dieu. Mais c'est montré comme une exception. La majorité ne marche pas de manière qui plaît à Dieu. Mais marcher avec Dieu, pour certains, c'est qu'ils ont une conduite dans leur vie qui plaît à Dieu. Le premier qui est nommé, c'est Enoch. Dans Genèse 5, Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu. Pour les autres, c'est écrit « il vécut ». Pour Enoch, c'est écrit, il marcha avec Dieu. C'est vraiment ce qui caractérise sa vie. Il engendra des fils, des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Dieu le prit auprès de lui. Un de ses petits-fils, c'est Noé. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Mais c'était des exceptions parce que le comportement général sur la terre était mauvais. Il empirait. Toute la terre se corrompait. Puis il s'est exprimé dans Genèse 6. Dieu vit que la terre était corrompue car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Littéralement, dans Louis II, 1910, c'est toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Son chemin était devenu souillé, corrompu, tortueux. Puis en conséquence de ça, bien, Dieu a jugé la terre par le déluge. Mais il a épargné Noé et sa descendance. Puis l'un des descendants de Noé, dans cette lignée-là, c'est Abraham. Puis Dieu, en choisissant Abraham pour être le père de son peuple, il lui a commandé « Marche devant ma face et sois intègre ». Il est encore question d'une conduite, d'une bonne voie à prendre, la voie qui plaît à Dieu. Et on voit ici une caractéristique, c'est l'intégrité, l'honnêteté, la justice. Puis Dieu promet même que la bénédiction des familles de la terre allait passer par sa descendance d'Abraham. Mais pour cela, la descendance devait marcher dans la même voie que lui. C'est comme conditionnel. Pas conditionnel au point où ce que Dieu ne pourrait pas respecter sa promesse, mais c'est quand même une promesse qui est montrée comme conditionnelle. Dans Genèse 18, on lit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et le droit, et ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. » Donc, de cette manière-là, par le fait que sa descendance garde la voie, par cette manière-là, Dieu va bénir toutes les nations de la terre. Bon, on va voir comment que ça va se faire. Vous connaissez déjà la réponse, mais on va le voir un peu plus tard. La voie a pris un sens très riche aussi avec les descendants d'Abraham, 400 ans plus tard, alors que, comme Dieu l'avait annoncé, ils étaient esclaves en Égypte. Et Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Les libérer de l'esclavage en Égypte. Les Hébreux, le peuple d'Israël. Puis, c'est indiqué de plusieurs manières que Dieu les a libérés pour les conduire, les mener, comme un berger qui mène son troupeau sur le chemin qui mène à la terre promise. On va lire ensemble Exode 23. Donc, Dieu va mettre son ange devant lui, c'est comme si c'était lui-même qui marchait devant son peuple. Puis, dans leur marche, Dieu va chasser les ennemis devant eux. Aucun ennemi qui va pouvoir tenir. S'ils restent attachés à Dieu, qu'ils résistent aux ennemis à ne pas faire d'alliance avec eux, Dieu va les chasser loin d'eux. Ça nous fait penser à un verset dans le Nouveau Testament, ça. Mais est-ce que ça s'est passé comme ça? Est-ce que le peuple d'Israël est resté fidèle à Dieu? Non, malheureusement. Ça a mal parti. Ils n'avaient même pas encore quitté le mont Sinaï où Dieu a prononcé ces paroles-là. Ils ont commis un grave péché. Ils ont fabriqué un veau d'or et se sont prosternés devant lui. Ils ont même proclamé que c'est ce veau-là qui les avait libérés d'Égypte. C'est vraiment comme une claque au visage là, à Dieu. Et dans Exode 32, on lit, ils se sont écartés de la voie. Ils n'étaient même pas encore partis, puis ils prenaient une mauvaise direction. Ce n'était pas la voie que Dieu leur avait prescrite. Puis Dieu va déclarer plus tard, peu de temps après, là, il déclare à Moïse, « Je ne veux plus monter avec ce peuple-là. » Ils sont tellement rebelles que si je monte avec eux, je vais les détruire dans ma colère. Mais Moïse a intercédé pour le peuple. Chapitre 33, versets 12 à 17. Donc finalement, Dieu accepte. Par la prière de Moïse, il accepte de monter avec le peuple. Il fait grâce. Non seulement à Moïse, il fait grâce au peuple. Puis pendant leur marche, à nombreuses reprises, il va leur faire grâce. Il va leur donner le moyen d'être secourus. Malgré leur rébellion répétitive. Mais pour Moïse, c'était comme hors de question. On ne peut pas se rendre dans le pays qui nous est promis si tu ne marches pas avec nous. Il faut qu'on marche avec Dieu. En Israël, une fois rendu dans la terre promise, le système du culte a été instauré. Il y a plusieurs psaumes qui ont été composés aussi, et des proverbes par Salomon les psaumes par David et d'autres. Puis ça rappelait au peuple l'importance de marcher sur la bonne voie. Il y en a plusieurs qui parlent de la voie, du sentier. Comme le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » Puis à la fin du psaume, c'est écrit « Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. » C'est un avertissement solennel. Là. Si vous prenez la voie des pécheurs, qui est contraire à la volonté de Dieu, la destination, là, c'est la perdition, c'est la mort. Dans les proverbes aussi, « Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. » Donc, savoir si on est sur une bonne voie ou pas ne dépend pas de notre propre jugement. Ça dépend du jugement de Dieu, de ce qu'il a prescrit. La route des hommes droits, c'est de s'écarter du mal. Qui veille sur sa voie, garde son âme. Donc, la route des hommes droits, être droit, c'est vraiment de cesser de pécher. Et si on veille là-dessus, on est en train de veiller à la destinée de notre âme, là, de notre vie. Puis, plusieurs psaumes expriment aussi que l'homme est faible dans cette responsabilité qu'il a là, de marcher sur la bonne voie. C'est seulement sous la direction de Dieu, c'est seulement si Dieu le guide qu'il va pouvoir marcher sur la bonne voie, qu'il peut cheminer sur la bonne voie. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillants et bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. Est-ce qu'il y a une autre leçon aussi à tirer de cet extrait-là? Oui, donc c'est seulement la voie de l'Éternel qui est droite, elle n'est pas tortueuse. C'est vrai? Autre chose? Oui, sinon le pécheur, il continuerait d'être errant. Donc c'est le Seigneur qui intervient pour nous prendre et nous amener sur le bon chemin et nous guider. Mais est-ce que c'est le cas de tous les pécheurs? Est-ce que Dieu prend tous les pécheurs pour les amener sur la bonne voie? C'est lesquels? Oui, ceux qui sont repentants. Les humbles, c'est ça. La repentance, bien, il faut s'humilier pour ça. Donc, ils sont caractérisés par l'humilité. Bon, on comprend dans la Bible que c'est Dieu qui met cette humilité-là dans le cœur. Mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas tous les pécheurs qui sont ramenés sur la bonne voie. Ceux qui sont ramenés sur la bonne voie sont caractérisés par l'humilité. Ils marchent humblement avec Dieu. Ils renoncent à marcher par leurs propres préceptes, leur propre discernement. Ils marchent selon les préceptes de Dieu. Dans la justice, c'est celle de Dieu. C'est Dieu qui déclare ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est injuste. Et ceux qui ont cette attitude-là, ils se font enseigner la bonne voie. Il enseigne aux humbles son chemin. Donc, on peut voir que l'humilité, c'est un prérequis. Mais Dieu prend soin, il est bienveillant sur cette route-là, puis il est fidèle. Jamais qu'il va nous laisser tomber ou se tanner et dire « Ah, là, je ne suis plus capable. » Ou marcher trop vite pour n'être pas capable de suivre. Il s'occupe vraiment de nous guider. Là. Pour ceux qui lui restent fidèles, qui gardent son alliance et ses préceptes. Puis pour ça, bien, on peut lui demander, on peut l'invoquer. Et Dieu peut être invoqué pour obtenir sa direction. Psaume 5, 9, « Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes détracteurs, aplanis ta voie devant moi. » Comme on lit dans Notre Père, là, ne nous soumets pas à la tentation. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » On n'est pas capable de se juger soi-même. On est toujours biaisé ou on est aveuglé. Donc, c'est bon de s'en remettre à Dieu. Juge mes voies, regarde là, mes intentions, mes habitudes de vie, est-ce qu'elles sont bonnes, mes décisions. Si elles ne sont pas bonnes, corrige-les là, pour que je revienne sur la bonne voie. On va lire le psaume 23 ensemble. Puis on se pose la question de quelle manière le psaume 23 développe ce thème-là. C'est un psaume que plusieurs connaissent par cœur, ou peut-être quelqu'un veut le réciter par cœur. Mais de quelle manière ce psaume-là développe le thème de la voix? C'est une des tâches principales du berger que de conduire son troupeau pour qu'il puisse aller manger, puis après ça, conduire pour le ramener au bercail. Puis le lien avec le thème de la voie, c'est qu'on peut continuer à marcher même quand on a des grandes épreuves qui normalement devraient nous arrêter, là. On peut continuer parce que, oui, Dieu est notre assurance, notre sécurité. On ne va pas juste les trouver à la ligne d'arrivée, elle nous accompagne. Elle nous accompagne sur le trajet. Puis même le dernier verset, c'est vrai que c'est le sens est de demeurer dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, mais littéralement, il dit « j'habiterai dans la maison de l'Éternel », mais littéralement, c'est « je reviendrai ». Mais c'est vrai que si on dit « je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour toujours », ça veut dire que je vais y rester. Mais le terme, le mot est quand même choisi pour montrer une direction, même peut-être une conversion. Je me tourne pour aller dans la maison de l'Éternel, puis je vais y rester pour l'éternité. Je retournerai, je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Donc, tout le psaume, en fait, parle d'une direction sous la conduite de Dieu. Bon, malheureusement, en Israël, sous l'époque des juges puis des rois, majoritairement, les Israélites ont pris la mauvaise voie. Parfois, ils se sont repentis, il y a même eu des repentances comme nationales. Mais très souvent, la majorité a pris de la mauvaise voie. C'est un reste que Dieu s'est gardé qui était sur la bonne voie, mais majoritairement, ils prenaient une mauvaise direction, puis ils ont rarement pu être une source de bénédiction pour les familles de la terre. Mais Dieu a annoncé, à cause de ça, leur jugement par les prophètes. Jérémie 2 dit « Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, au moment même où il te conduisait dans la voie? » On ne sait pas que Dieu a arrêté de te conduire, comme tu pourrais croire. « Ah, Dieu nous a abandonnés. » C'est toi qui as abandonné, qui a rejeté la main de Dieu, là, puis qui est allé dans le champ. C'est toi qui as quitté la bonne voie. Puis ça, c'est malgré les nombreux avertissements. Les prophètes étaient envoyés, là, d'abord leur message était « Repentez-vous ». Jérémie 21, c'est un exemple. « Ainsi par l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisissez, mais il y a une conséquence à votre choix. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des antiques sentiers. Où donc est le bon chemin? Marchez-y et trouvez le repos de vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. » Donc, c'était une décision. Puis malgré les appels gracieux de Dieu, là, les invitations à se repentir, à répétition, ils refusaient, jusqu'à l'époque de Jérémie. Puis c'est pendant la vie de Jérémie là, que le peuple d'Israël a finalement été... Juda a été détruit. Bien, même au début de la vie de Jérémie. En tout cas, l'Israël du Nord a été déporté, puis ensuite Juda. Donc, Jérémie l'a même connu, ça. L'application de ce jugement-là. Mais les prophètes ont aussi annoncé la venue de Dieu, donc le berger qui va venir, de son Messie, le Sauveur. Donc parfois, les prophètes annoncent que c'est l'Éternel lui-même qui va venir. En d'autres occasions, c'est son Messie qui va venir, le serviteur. Il y a comme une confusion qui est voulue. Le Nouveau Testament nous apprend finalement que c'est le même. Là. Le Messie, c'est Dieu. Le Sauveur va venir pour conduire sur la voie du salut. En Ésaïe 35, on lit « Il y aura là un chemin frayé, une voie qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » Ça tombe bien, c'est bon pour nous. Ésaïe 40, « Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, « Ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez la steppe, une route pour notre Dieu. » Puis le verset qui va avec aussi, c'est celui dans Malachie. « Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. » Bien, le Nouveau Testament révèle que c'est Jésus Mais d'abord, le messager devait venir, puis c'est intéressant de voir, c'est une prophétie qui était très importante. Puis les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les quatre en parlent de l'accomplissement de cette prophétie-là, que ça commence par le ministère de Jean-Baptiste. C'est lui le messager envoyé devant l'Éternel pour ouvrir la voie. Et son ministère, Jean-Baptiste, c'était principalement d'appeler les gens à se repentir. Repentez-vous parce que le Christ arrive. Donc, repentez-vous pour accueillir Christ qui vient vous sauver. C'est une manière d'ouvrir la voie pour que Christ vienne. Il passe par cette voie-là, puis ceux qui le sauvent le suivent. Marc 1 dit « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe et Malachie. » C'est comme une combinaison. « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer un chemin, pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Donc, le messager, c'est Jean-Baptiste. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le Seigneur qui vient, c'est Jésus, c'est l'Éternel. Donc, c'est Dieu fait chair. C'est lui le grand berger. Jésus, quand il est venu, il a enseigné la voie de Dieu, la voie de la vie, qui consiste d'abord à croire en lui, à accepter son enseignement et à le suivre. Jésus en parle souvent, hein? « Suivez-moi. » Puis ceux qui croyaient en lui, le suivaient. Ceux qui étaient guéris, puis disaient « Wow, c'est vraiment le Messie, lui. » Leur réaction là, spontanée, là, ou guidée par l'Esprit, c'était de vouloir le suivre. Puis c'est devenu ça l'appel, en fait, à suivre Jésus. Matthieu 16, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. C'est un peu énigmatique, cette phrase-là. Quelqu'un voudrait l'exprimer dans ses mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça comporte une certaine souffrance, bien sûr, comme à l'image de Jésus. En fin de compte, en bout de ligne, quand on va mourir, il ne restera plus rien. Donc, on va la perdre. Mais pourquoi Jésus dit que le contraire? Quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Littéralement, ça se peut qu'un chrétien soit appelé à mourir pour la cause de Christ. Ça se peut qu'on meure, martyr. Mais la récompense, le bonheur, c'est qu'on va trouver la vie, on a la vie éternelle. Mais c'est aussi une phrase qui symbolise toute la vie chrétienne, celle du renoncement. Donc on va au travail, mais notre but dans la vie, ce n'est pas notre carrière. On amasse de l'argent, mais notre but dans la vie, ce n'est pas d'amasser des possessions. Même on a une famille, notre but dans la vie, ce n'est pas d'avoir la meilleure famille au monde. En tout cas, notre but dans la vie, c'est Christ, c'est son royaume. Maintenant, combien nombreux sont ceux qui s'engagent dans cette voie-là, à suivre Jésus? Bon, ils sont peu. Jésus, mais on ne doit pas se surprendre de cela, même si on peut être attristé. Jésus nous l'a dit. Quelqu'un peut lire Matthieu 7, 13 à 14. Ouais, donc sur le chemin qui mène à la vie, on ne doit pas se surprendre qu'on est peu nombreux. La majorité va emprunter la voie large, la voie facile, la voie qui ne comporte pas à leurs yeux de fardeau, n'ont pas apporté de croix, puis ils vivent pour eux-mêmes, pour se glorifier plutôt que de glorifier le Créateur. Donc, la majorité va emprunter cette voie-là. Mais la voie de Christ, elle, il y en a peu. Et comment qu'elle est décrite? Elle est resserrée. Ouais, elle est étroite. Donc, il n'y a comme pas de marge de manœuvre. Si tu suis Christ, là, tu suis ce qu'il te dit. Tu n'es pas en train de négocier avec lui, là. Tu suis ses préceptes. Et pourquoi il faut suivre Jésus? Parce que Jésus est le seul qui peut ouvrir la voie vers le sanctuaire de Dieu. On se souvient quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ils ne pouvaient plus là, emprunter la voie pour aller dans l'endroit où Dieu marchait à travers les hommes, dans le sanctuaire du jardin d'Éden et vers l'arbre de vie. Mais Jésus, lui, peut nous ouvrir cette voie-là. Les humains sont incapables, on a perdu ce droit-là depuis que le péché est entré. On a perdu cette capacité-là, la voie nous est barrée. Mais Jésus, lui, il a comme un laissez-passer, là. Et quand on est avec lui, on peut entrer. Même si le doorman nous demande, « Il est où ton laissez-passer, là? »« Ah, mais je suis avec lui. » »« Ah, OK, c'est beau. » On peut tous passer. Jésus nous ouvre la voie. Et ce qui est intéressant, c'est parce qu'il est lui-même la voie. Ça, c'est toute une déclaration. Quelqu'un peut nous lire Jean 14, 1 à 6. Wow, c'est toutes des paroles, c'est solennel. Hein? Il y a un rabbin qui était venu me rencontrer là, il y a quelques mois. Ah, ça fait presque un an, là, ça. Je sais pas trop. Il voulait comme venir me challenger là, pour tenter de nous convertir au judaïsme. Et il vantait les mérites de Moïse, puis les proverbes. Il disait, ça nous enseigne la bonne voie. Là. C'est le Nouveau Testament, là. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'il nous enseigne la bonne voie? Est-ce que Jésus a dit même que sa voie était assurée? Il dit, attends, Jésus a dit plus que ça. Jésus a dit qu'il est la voie. Wow! C'est la première fois qu'il entendait parler de ça, mais c'est une déclaration frappante, là. Mais c'était drôle, parce que chaque argument qu'il apportait, là, il vantait la sagesse de Salomon. Il dit, Jésus a dit qu'il est plus sage que Salomon encore, là. Il est la sagesse incarnée. Ou il parlait de la lumière qu'apporte la loi de l'Ancien Testament, ça nous éclaire. Donc, Jésus a dit, non seulement il nous éclaire, il est la lumière. Là, il dit, c'est soit que Jésus est un menteur, ou bien ça te dépassait, mais finalement, il est reparti. Donc, Jésus est la voie. Le livre des Actes rapporte aussi que les premiers chrétiens ont été appelés ceux de la voie. C'est intéressant. Ils étaient des Juifs convertis à Jésus, donc ils étaient considérés comme une nouvelle secte. Il y avait l'ordre des pharisiens, des sadducéens. Là, tout à coup, il y avait cette nouvelle ordre-là, là, cette nouvelle secte qui croyait que le Messie était venu, puis il se faisait surnommer la voie. Puis Luc dit, dans l'auteur du livre des Actes, que c'était l'Église. C'était des Juifs convertis à Jésus. Dans Acte 9, où on lit que Paul, il s'appelait Saul à l'époque, il les persécutait. Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il s'y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Non, je ne sais pas si c'est les chrétiens eux-mêmes qui s'appelaient « Nous, on est les gens de la voie » ou ils se sont fait surnommer par d'autres, mais ça les caractérisait. Là. Ils étaient dans une marche là, commune. Et Paul les a persécutés. Après, il s'en est voulu parce que c'était une faute grave. D'ailleurs, si on va lire Acte 22 où Paul parle de son témoignage, un extrait. Et je vous pose la question, pourquoi c'était particulièrement grave de persécuter les gens de la voie? C'est ça, donc comme dit Benjamin, c'était grave de persécuter les chrétiens, les gens de cette voie, parce que, selon ce que Jésus dit à Paul, c'était persécuter Jésus lui-même. Persécuter l'Église, c'est persécuter Jésus. C'est persécuter son corps. Donc, à chaque fois qu'un enfant de Dieu, un chrétien, est traité injustement, est martyrisé, ça atteint Jésus, là, ça le blesse. Donc, il n'est certainement pas indifférent à ça. Puis Paul a été touché, il a compris la gravité de son acte, puis il s'est repenti. Puis on dit qu'à celui que beaucoup a été pardonné, il aime beaucoup. Mais Paul est devenu, de son temps, là, un des plus grands défenseurs de la voie, au péril même de sa vie. Il est entré dans cette même voie-là, celle qu'il persécutait. Et pendant qu'il était en prison, pendant 2 années où il avait été arrêté, les Juifs portaient des accusations contre lui parce qu'ils disaient « Cette voie-là, cette secte, disent qu'on ne doit plus croire à l'Ancien Testament, à tout ce que Dieu avait promis. Là, ils disent que c'est faux. » Mais Paul se défend bien. Il disait, ces accusations-là sont pas vraies. Dans Acte 24, il dit « Je le confesse devant toi, je rends un culte au Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi. » Et dans les prophètes. Puis c'est Paul plus tard qui va écrire plusieurs lettres aux églises, dont la lettre aux Romains, où il dit « Christ, c'est la fin de la loi. » On pourrait dire « c'est l'aboutissement final. » C'est sûr qu'on est plus dans cette ère-là, où est-ce qu'on suit la loi de Moïse, mais c'est pas qu'elle on considère qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas vraie, elle trouve tout son sens en Jésus. Quand on suit Jésus, on accomplit la loi. Et cette loi-là, c'est en vue de la justice pour tout croyant, donc pour justifier le croyant. C'est l'aboutissement final, c'est l'apogée. Donc on suit Christ, puis on n'a pas à avoir peur, est-ce que j'en fais assez pour être agréable à Dieu? Non, suivre Christ par la foi, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est la voie de Dieu. Maintenant, l'épreuve pour les chrétiens, ça peut venir de la persécution, ça vient souvent. Mais moins au Canada, là, on est épargné de ça, pas totalement, mais on est quand même en paix. On peut remercier Dieu pour ça. Mais l'épreuve ne va pas venir seulement de la persécution. Dans 2 Pierre, qu'est-ce qui peut nous mettre en danger de quitter la voie? Il y a plusieurs choses, mais il y a un exemple qui est donné ici. 2 Pierre 2, 1 à 3. Oui, donc la menace peut venir de l'extérieur. Par la persécution, ça peut décourager des chrétiens qui peuvent abandonner la voie. Mais ça peut venir aussi de l'intérieur. Des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux prophètes, faux docteurs, qui vont enseigner une voie qui n'est pas celle de Christ. Et quel sort qui est réservé à ces gens-là? 15 à 22. Ben, c'est ça. Donc, des gens qui ont connu la voie, qui s'en écartent, qui se réengagent dans la voie de la perdition, qui quittent la voie de la justice, se réengagent dans la voie de la corruption, leur condition est pire. C'est Dieu qui fait ça, on a fait ici. Puis on sait que la destinée, la fin de cette voie-là, c'est la mort. Et malheureusement, il y en a qui les suivent dans leur égarement. Et ça a l'air d'un seul point, mais en réalité, quand tu permets cet écart-là, parce que là, tu réfléchis d'une manière différente, là, tu vas permettre d'autres écarts. Tu es en train de dévier, là, tu n'es plus sur la bonne voie. Tu rejettes même le concept que la Bible, c'est l'autorité, c'est la parole de Dieu. Ouais, ça crée des divisions. C'est pour ça que les faux docteurs sont appelés parfois ceux qui causent des divisions. Il faut les reprendre, puis s'ils ne se corrigent pas, il faut les mettre de côté, là, pour la protection. Bon, ici, c'est sûr que c'est exprimé du point de vue de l'homme. Il y en a qui s'engagent dans la bonne voie, qui finalement l'abandonnent, la quittent. Leur condition est pire qu'avant. Il y en a qui vont, si c'est vraiment des enfants de Dieu, ils vont revenir. Parce que la Bible nous dit aussi que du point de vue de Dieu, ceux qui sont ses élus, ceux qui sont ses enfants, là, sont scellés par le Saint-Esprit, ils peuvent s'écarter un temps, mais Dieu va les ramener. Mais nous, on ne sait pas, là. Ce qu'on voit de nos yeux, c'est qu'il y en a qui s'écartent. Ils abandonnent la foi. Ils abandonnent la voie. Il y en a qui ne reviennent jamais. La destinée, finalement, c'est la perdition. Mais il n'y a pas 56 solutions. Il faut qu'ils reviennent. Puis on est invités, même nous, à tenter de les ramener, de prier pour eux, de les exhorter. En autant que c'est possible, là, dans nos moyens. Mais les vrais chrétiens sont décrits dans l'Apocalypse. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ne se posent pas de questions, ils le suivent. Et dans le contexte, c'est écrit qu'ils ne se souillent pas, ils suivent les prescriptions de Jésus. Bon, ça peut arriver qu'ils tombent, qu'ils commettent des péchés, on en commet tous, mais on ne fait pas comme le chien qui retourne à son vomi, ou le cochon qui est tout bien nettoyé, là, qui va retourner dans la boue. On ne se plaît pas là-dedans, on se plaît à suivre Jésus, puis on est attristé quand on tombe. Donc, on n'est pas caractérisé par une voie de souillure de corruption, une voie de sainteté. Puis à la fin des temps, ces vrais chrétiens-là, qui suivent Jésus jusqu'à la fin, bien, ils pourront marcher à nouveau, enfin, dans la présence même de Dieu, dans le sanctuaire. C'est comme si on retrouve ce qui a été perdu, le privilège là, du jardin d'Éden. Puis même avoir accès à l'arbre de vie éternellement. Bien, on va lire cela en conclusion. Si quelqu'un a du souffle, là, veut lire chapitre 21 d'Apocalypse, à partir du verset 23 jusqu'au début, vers chapitre 22. Il est encore question, là on est comme à la fin là, de la Bible, il est encore question de l'action de marcher. Donc en conclusion, la voie de Dieu qui est décrite dans l'Ancien Testament, c'est celle de la voie de la foi. Ceux qui s'y engagent, c'est ceux qui marchent humblement avec leurs yeux, qui ont la foi, la voie de la justice, de l'intégrité. Et refuser de s'y engager ou s'en écarter, ça mène à la mort. Mais le contraire est vrai, sauf que c'est pas clairement exprimé de quelle manière ça fonctionne. La voie de Dieu, elle mène à la vie. Parce que tous les hommes dans l'Ancien Testament sont quand même morts physiquement, là. À part Enoch qui a été enlevé, puis Élie. Donc, comment ça fonctionne, comment ça peut mener à la vie? Bien, plusieurs prophètes l'ont annoncé, mais c'est clairement révélé dans le Nouveau Testament. C'est en Jésus. Parce que Jésus, en Jésus, la vie qu'il procure, c'est une vie éternelle. C'est la seule voie, c'est seulement par la foi en Jésus. Ouais, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et les fruits dont Jésus parle, c'est ses œuvres. Regarde les œuvres que la personne fait. Elle a beau avoir plein de discours, là, très épatants, là, très philosophiques, dans sa vie, là. Est-ce qu'il fait le bien selon les critères de Dieu? Oui ou non? Est-ce que vraiment la Bible est l'autorité dans sa vie? Sinon, c'est un faux enseignant, là. Il est hypocrite. Ouais, c'est ça. Ben, pour chercher sincèrement la gloire de Dieu, la gloire de Christ, il faut que tu sois humble. Il faut que tu renonces à rechercher ta propre gloire, là. Accepte de porter ta croix. C'est vrai. C'est pour ça que Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Parce que lui-même, il était sur la voie qui suivait Christ. Donc, on peut avoir des gens qui sont plus avancés dans la vie chrétienne, puis on les suit comme des valeurs sûres, là, parce qu'ils sont en train de suivre Jésus. Bon, mais ça se peut qu'ils tombent quand même. Donc, ultimement, c'est Jésus qu'on suit. Mais c'est vrai qu'on. Quelqu'un qui est fidèle, normalement, on peut le suivre, là, parce qu'il est en train de suivre Jésus.